Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast, ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Aude, fondatrice de Moudana. Moudana a vu le jour au Cambodge, où Aude a habité pendant plusieurs années. Dans cet épisode, Aude nous raconte le chemin parcouru pour réussir à créer des vêtements éthiques et responsables. Des tissus choisis ou aux boutons utilisés sur ses créations, Aude pense à tout. Elle bouscule les codes de la mode conventionnelle en plaçant l'humain au cœur de ses créations. J'espère que cet épisode vous plaira et que vous apprécierez découvrir son travail. Bonne écoute à tous! Bonjour Aude!
Bonjour Jeanne!
Donc aujourd'hui on va parler de Moudana, qui est la marque de vêtements que tu as créée il y a deux ans maintenant, un an et demi, deux ans?
La première collection, elle est sortie il y a un an et demi, oui. Ouais. Après, ça fait un peu plus de temps que je travaille dessus.
Oui, voilà. Et donc, en lisant une de tes interviews, j'ai vu que c'était en fait au Pérou. Donc, il y a plus d'une dizaine d'années que tu avais eu l'idée et l'envie de créer une marque de vêtements, que tu avais été vraiment conquise par l'artisanat là-bas. Cette idée t'était restée dans un coin de la tête et avait fait son petit bout de chemin quelques années après. Donc, je voulais aussi préciser aux auditeurs que Moudana, ça signifie vêtements. En quechua, qui est donc la langue native du Pérou. Donc, c'est un petit clin d'œil que tu as fait finalement à ce pays et à ce qui t'a apporté, tes premières idées et cette première envie de créer une marque de vêtements éthique.
Oui, c'est ça. Mais ça va faire bientôt, l'année prochaine, ça fera 15 ans.
Et ben voilà.
En 2005. Et c'est là-bas vraiment que j'ai eu cette idée, hein, comme un flash qui m'est venu de créer une marque qui associe tissu traditionnel, mais avec des coupes modernes, parce que je voyais des superbes tissus traditionnels, j'adorais déjà ça m'attirait beaucoup, mais je trouvais que c'était pas du tout adapté au goût européen dans les coupes. Les coupes étaient mauvaises, puis c'était pas des choses qu'on pouvait reporter au retour. Et donc c'est là où j'ai eu l'idée de valoriser ces tissus, mais dans des vêtements qu'on pourrait vraiment porter.
Tu n'as pas seulement importé des vêtements du Pérou ou du Cambodge, on va en parler, mais tu as vraiment redessiné toute une gamme et tu as utilisé les techniques et les savoir-faire traditionnels pour créer quelque chose de moderne.
C'est ça.
Et donc, qu'est-ce que tu as fait, en fait, entre cette période de découverte au Pérou et l'aboutissement de Moudana, donc, qui a vu le jour il y a un an et demi, en sachant que toi, tu vis au Cambodge?
En fait, j'étais au Pérou, j'étais étudiante.
Ouais.
Et voilà, j'ai eu cette idée, mais c'était encore trop tôt pour, évidemment, me lancer dans une marque, parce que je devais être en licence, maîtrise. Et puis, je suis rentrée en France et c'était cette période-là où on commençait tout juste à parler de mode éthique, mais c'était encore super confidentiel et c'était les débuts de Veja, où Veja commençait à être connue. Et donc moi, à partir de ce moment-là, de ce voyage au Pérou, j'ai commencé à m'intéresser énormément à la mode éthique. Donc, je suis revenue en France, j'ai continué mes études. Et puis là, j'ai fait, par exemple, un master sur le coton équitable, un mémoire dans mon master sur le coton équitable. J'ai fait un stage chez Max Havelaar. J'ai organisé un défilé de mode éthique dans ma fac, ce qui, à l'époque, limite, serait peut-être un des premiers défilés de mode éthique, si c'était en 2008. Et voilà, donc j'avais vraiment cette idée. J'ai fait un master entrepreneuriat, donc c'était sûr que je voulais créer mon entreprise dans le domaine économie sociale. Mais je ne me sentais pas avoir encore les billes pour me lancer. Je trouvais que je manquais à la fois d'expérience de terrain et puis d'expérience professionnelle. Et résultat, à la fin de mes études, je suis partie 6 mois faire le tour du Brésil. Parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, le Brésil était un exemple d'innovation sociale. Et donc voilà, donc je suis partie 6 mois au Brésil, sac à dos sur le dos, pour faire le tour de ces initiatives, dans l'idée de savoir un peu plus commencer sur le terrain, comment ça marche le commerce équitable sur le terrain, c'est quoi le bénéfice pour les gens, qu'est-ce que ça peut changer, enfin, d'essayer de comprendre, pas juste me lancer dans des idées de je vais faire du commerce équitable, c'est génial, mais vraiment d'essayer de comprendre comment ça marche et quel est le bénéfice.
Ouais.
Et puis, bah, donc, dans cette idée-là, j'ai écrit un blog, j'ai fait au retour des interventions dans des écoles et tout. Et puis, bah, suite à cette expérience-là, par hasard, je suis rentrée en contact avec une petite ONG qui cherchait à recruter, en gros, son directeur ou directrice. Et donc, j'ai été recrutée par l'ONG. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait pas de financement, il n'y avait presque pas de projet et tout. Il y avait juste un peu de financement pour me payer mon poste pendant un an et demi. Et donc, en gros, j'étais de retour du Brésil en France, mais c'est mon expérience du Brésil qui a fait que mon profil a intéressé les gens qui tenaient cette ONG. Et donc là, je me suis dit, bah, allez, c'est parfait, je vais faire ça parce que ça me permettra d'avoir en même temps un travail un peu entrepreneurial tout en étant salarié. Donc j'ai une indépendance, je peux développer des projets, c'est dans le domaine qui m'intéresse, mais en même temps j'ai quand même la sécurité d'avoir un salaire, je ne me lance pas tout de suite à créer mon entreprise. Et puis, bah, résultat, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et donc pendant 6 ans, j'ai travaillé pour cette ONG qui faisait des projets d'économie sociale en Afrique de l'Ouest. Et donc j'étais 2/3 du temps à Paris et 1/3 du temps en Afrique de l'Ouest. Et puis là aussi, ça m'a énormément appris. C'était une super, super expérience. Pareil, sur aussi apprendre sur le terrain. Et puis bon, toute la thématique très générale de l'aide humanitaire, l'aide au développement. C'est les bons côtés, c'est les mauvais côtés. Enfin, ça m'a vraiment permis aussi d'avoir une meilleure compréhension de pas mal de choses et, au niveau international et au niveau local aussi. Et puis, après 6 ans, je trouvais que j'avais un peu fait le tour du poste. J'avais toujours cette idée de création de marque de vêtements qui me trottait dans la tête, qui était toujours présente en arrière-plan. Et puis, j'osais pas me lancer. Je me disais, mais c'est quand même fou cette idée. T'as pas fait d'études de stylisme. Personne va croire en toi. C'est n'importe quoi de créer une marque alors que t'es pas styliste. Et puis finalement, il y a eu une rencontre, celle de mon conjoint actuel, qui lui avait décidé de partir s'installer au Cambodge. Et puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Ça me plairait bien de repartir vivre à l'étranger. Donc, allez, je le suis. Mais alors, qu'est-ce que je fais au Cambodge ? Et au Cambodge, il y a énormément d'ONG aussi. Et donc, je pouvais très bien retrouver un travail dans une ONG. Et puis là, lui, il m'a dit, mais oui, mais tu sais, ton rêve de créer cette marque de vêtements... Tu devrais peut-être y penser. Regarde, au Cambodge, il y a aussi beaucoup d'ateliers textiles. Il y a plein de choses à faire et tout. Et puis, il m'a emmené voir un atelier de confection équitable dont il avait entendu parler. Et donc, lui, il était déjà parti au Cambodge. Et moi, je suis venue le voir en vacances 3 semaines. Et voilà. Et donc, dans ces 3 semaines, il m'a emmené visiter cet atelier de mode éthique. Et j'étais super emballée, j'ai fait waouh, mais c'est génial, mais en fait, ça a pas l'air si... enfin, je pourrais travailler avec eux, ça a pas l'air si compliqué. Et puis voilà, c'est là où je me suis dit bon, allez, je quitte tout, je pars au Cambodge et je vais pas chercher un travail, je vais créer ma marque de vêtements. Je vais essayer de réaliser ce rêve. Et donc, cet atelier, bah, c'est toujours mon atelier, c'est effectivement l'atelier de Pour un sourire d'enfant, qui est un super atelier équitable avec lequel je travaille toujours.
Oui, qui travaille avec un savoir-faire assez ancien.
En fait, à la base, c'est une ONG qui est arrivée il y a 15 ans en Cambodge, ou 20 ans, après la guerre. Et au départ, ils étaient sur l'enfance et la protection de l'enfance, au départ juste sur le fait de donner à manger aux enfants. Après la guerre, la situation était vraiment dramatique au Cambodge. Donc, il y avait énormément d'enfants qui survivaient dans les décharges, en récupérant les déchets et en mangeant ce qu'ils trouvaient dans les décharges. Et donc, cette ONG s'est créée au départ juste pour répondre à ce besoin de donner une nourriture un peu plus saine à ces enfants. Et puis finalement, ils sont très vite partis sur de l'éducation. Donc, ils ont commencé à monter une petite école. Ils ont récolté des fonds. Et c'est eux qui ont un peu lancé ce système de parrainage où on parraine tous les mois, on donne un peu d'argent et ça parraine la scolarisation d'un enfant. Et donc, et ça a super bien marché. Et donc maintenant, c'est une énorme ONG. En fait, c'est la plus grosse ONG du Cambodge après la Croix-Rouge. Et ils scolarisent 6000 enfants par an, ce qui est énorme. Et ils ont, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'organisation de l'école, mais c'est vrai qu'ils ont une approche aussi avec, voilà, les enfants, ils vont à la cantine, ils ont un service social pour suivre les familles qui ont le plus de difficultés et tout. Et puis, dans cette image un peu d'avoir une démarche globale, ils se sont dit, bon, bah, tous ces enfants qu'on scolarise, ils ont tous des uniformes, donc ça fait quand même beaucoup d'uniformes qu'on achète à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un atelier de confection qui va permettre de produire nous-mêmes les uniformes? Donc, ça nous coûtera moins cher. Et puis, en plus, comme ça, on va donner du travail aux mamans des enfants qu'on scolarise. Donc, on aura encore plus d'impact auprès de ces enfants.
D'accord.
Et c'est comme ça qu'ils ont créé l'atelier de confection. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bah, tiens, alors pour avoir encore plus d'impact, pourquoi est-ce qu'en plus, on n'ouvrirait pas cet atelier de confection à d'autres marques qui chercheraient à produire dans des conditions éthiques? Et voilà. Et moi, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ça faisait peut-être un ou deux ans qu'existait l'atelier, quelque chose comme ça. Donc, il est quand même assez récent. Et donc, c'est top de se dire que bah, c'est complètement l'inverse de ce qui se passe sinon dans la fast fashion. C'est pas du tout les enfants qui travaillent, c'est les enfants, ils vont à l'école gratuitement pendant que leur maman, elles ont accès à un travail équitable, qu'en plus c'est des horaires, enfin pour le Cambodge c'est des horaires ultra sympas.
Quand tu as découvert ces textiles, quel est le premier modèle qui t'est venu en tête? Est-ce que tu avais déjà imaginé, toi, je sais pas, un modèle de robe, un modèle de veste, une écharpe, ou est-ce que tu t'es laissé guider par les tissus que tu as trouvés?
Ça a été des allers-retours, je te dirais, et c'est toujours un peu comme ça. À la base, j'ai des modèles en tête. J'essaye de trouver un tissu qui va avec le modèle, mais après, il faut que j'adapte quand même un peu le modèle par rapport au tissu.
Oui, donc c'est vraiment un travail avec l'atelier et vous travaillez en binôme pour que toi, tu puisses élaborer le modèle que tu as en tête, mais aussi travailler avec leur tissu. Voilà, c'est vraiment en fait un travail d'aller-retour.
Alors, pour précision, donc les tissus, en fait, je les achète à des artisans. Donc je les achète, ils viennent pas du tout de l'atelier. Mmh. Et les ateliers, même parfois, sont pas tellement habitués à travailler avec mes tissus.
D'accord.
Donc c'est un apprentissage aussi pour l'atelier de travailler avec certains tissus. Là, par exemple, surtout pour la collection Laos, vu que c'est des tissus laotiens, bon, encore, quand c'était la collection Cambodge, c'est des tissus du Cambodge, donc la soie, ils sont un peu plus habitués. Mais là, les tissus du Laos, c'est aussi une découverte pour l'atelier.
Oui, donc il y a aussi tout un travail d'initiation de ta part pour leur faire découvrir des nouveaux tissus et des nouveaux savoir-faire. En fait.
Ouais. Et il y a des tests sur la collection. C'est pour ça que la collection Laos aussi a été beaucoup plus compliquée à développer, parce qu'il y a des... On peut avoir un tissu et avoir une idée avec, mais en fait, c'est une fois qu'on le produit, ben, ça marche pas, ça va pas, ça tombe pas bien, ça fait pas bien. Et voilà, il y a certains modèles comme ça où il a fallu qu'on refasse et on change le modèle parce que ça marchait pas. Et tu sais pas trop pourquoi.
Et c'est frustrant, j'imagine. Comment t'as constitué ta première collection, en fait ? Donc toi, tu as bon, non seulement une démarche très, très éthique, mais aussi une volonté de te débarrasser de tout ce qui est plastique ou pièces non recyclables sur un vêtement, comme pourrait l'être, par exemple, un bouton ou une fermeture éclair, ce genre de choses. Est-ce que ça, c'était ta volonté depuis le début, vraiment d'allier ces deux aspects dans tes collections ?
Oui, bah, c'est une conviction personnelle. C'est la démarche de Moudana. C'est quelque chose que j'avais gardé depuis mon voyage au Brésil. Ils avaient monté ce qu'ils appellent des chaînes de valeur solidaires. Veja emprunte ce type de chaîne de valeur solidaire. Enfin, j'avais rencontré certains des partenaires de Veja au Brésil, mais il y avait d'autres marques aussi qui faisaient ça. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'à tous les maillons de la chaîne, tu essayes d'avoir que ce soit que solidaire et écologique et de pousser la démarche le plus loin. Et donc, en créant Moudana, c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, j'ai réfléchi, bon, bah, voilà, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans un vêtement ? Bon, bah, il y a le fait de coudre le vêtement. Il y a les tissus. Donc là, bon, bah, donc c'est de ma solution, si on pourra en reparler, que j'ai trouvé, que je trouve la plus, par rapport à la situation du Cambodge, la plus sociale et écologique, c'est d'un côté des tissus traditionnels par des artisans et de l'autre côté des tissus upcyclés. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah, il y a les fils, il y a les boutons, il y a les zips, il y a tout ça. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Essayer d'avoir un sourcing éthique aussi au niveau de ce petit matériel de confection.
Pour vraiment être sur toute la ligne, suivre la même philosophie, en fait.
Ouais. Mais j'essaye vraiment à tous les niveaux. Alors, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a certaines choses pour lesquelles je n'ai pas trouvé encore de solution. J'espère en trouver plus tard, mais tu vois, par exemple, mes sacs, les sacs pour quand je vends en direct, quand je fais un événement, un pop-up et tout, et c'est des sacs qui sont fabriqués ici par une ONG qui fait de l'insertion de jeunes handicapés. Donc, à chaque petit détail, si je peux trouver un fournisseur, un partenaire, qui soit voilà, une entreprise sociale, une ONG, voilà, je vais vers ça. J'ai travaillé avec un styliste cambodgien, mm-hmm. qui était top, hein, qui m'a vraiment fait des super patrons. Donc j'avais fait les dessins, donc un top, un pantalon, une jupe, une robe et un kimono. L'idée, c'est d'avoir un petit peu un vestiaire un peu global. Donc,
Et pour justement diffuser tes vêtements, les faire connaître, comment tu t'y es pris ? Est-ce que tu as plutôt misé sur le Cambodge, la France, l'Europe ?
Non, alors dès le départ, j'ai décidé que j'allais surtout essayer de vendre en France. Mmh. Parce que au Cambodge, il y a un petit marché de consommateurs intéressés par la mode éthique. Mais il est quand même très petit. Donc, dès le départ, je me suis dit que ça ne serait pas suffisant pour vraiment se développer. Et tu ne peux pas... c'est pas évident. C'est pas les mêmes publics. Au Cambodge, il fait chaud. En France, il fait rarement très, très chaud. Donc, tu ne peux pas... Enfin, il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Donc j'ai choisi de vendre en France parce que je me suis dit que c'est là où vraiment ça serait possible de développer, de trouver quand même un marché qui est un peu plus conséquent, qui sera plus intéressé par aussi les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire textiles. Enfin, faut dire ce qu'il y a, hein. Au Cambodge, tu peux trouver mais tellement de solutions de vêtements à bas coût. Il y a toutes les secondes mains qui viennent du Japon, de Chine, de Corée, les vêtements pas chers produits dans des conditions affreuses ici, toutes les sorties d'usines, des stockages locaux. Enfin, il y a une offre incroyable ici de vêtements pour rien du tout. Essayer de mettre en place sa marque de créateur, c'est pas forcément.
Ouais, c'est pas forcément évident. Ouais. Et donc, pour le faire en France, comment tu t'y es pris ? Tu as emmené tes collections, enfin tes vêtements sous le bras et tu as été en France ou
Non, même pas, j'ai tout fait à distance. En fait, j'ai lancé un crowdfunding. Et, ouais. Ouais, et puis c'est le crowdfunding où je me suis dit, bon allez, je teste, je fais le crowdfunding et puis je vois si ça marche. Quoi. Et donc voilà, mais donc j'ai le crowdfunding, j'ai tout fait à distance. Et puis, bah, ça a super bien marché. C'est cool, j'ai fait 158% de l'objectif. J'ai été super surprise par tous ceux qui ont participé, voilà, plein de gens que je ne connaissais pas, mais aussi des gens, ce qui m'a vachement touchée, c'est que par exemple, il y a des amis du lycée que je n'ai pas vu depuis 20 ans, qui ont vu passer le truc sur Facebook et qui ont contribué au crowdfunding, enfin, j'ai trouvé ça génial. Et voilà, et puis bon, y a, et puis évidemment, bah, tous ceux que je ne connais pas aussi qui ont aussi contribué, et puis aussi, bon, bien sûr, ma famille et mes proches qui ont permis de lancer le truc, qui m'ont bien aidée énormément pour me donner le coup de pouce de départ. Et voilà, et puis en fait, une fois que le crowdfunding était lancé, c'est vrai qu'après, je continuais à avoir quand même un peu des demandes. Après, j'ai lancé le site internet. Après, je suis venue en France, j'ai fait des pop-up qui ont bien marché. Voilà, donc c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai quand même fait très peu de promotion, j'ai très peu fait de partenariats avec des influenceurs et j'ai pas eu beaucoup de presse, mais néanmoins j'ai quand même des.
Ouais,
je pense que c'est le bouche à oreille en fait. Et puis la plateforme StoryR aussi.
Ouais, j'allais en parler, ouais.
Et donc, ça, avec ça, ça m'a permis de me lancer. Bon, dans le futur, ce serait pas mal que je développe un peu plus la com quand j'aurai le temps.
Et tu aimerais aussi développer peut-être des points de vente, des concept stores ou rester sur une vente à distance ?
Ça, c'est une grande question. Je ne sais pas. Après, la question de la vente en boutique... C'est, en fait, le problème, c'est quand tu vends en boutique, forcément, tu as des coûts qui sont plus importants. Donc tu es obligé d'augmenter ton prix de vente. Jusqu'à présent aussi, j'ai essayé d'avoir un prix de vente consommateur qui soit pas trop élevé. Un prix que je pourrais plus proposer si je vendais en boutique. Enfin, clairement, il faudrait que j'augmente mes prix. Donc c'est la grande question, et en même temps, si il y a beaucoup de clientes qui me disent où est-ce qu'on peut essayer tes vêtements, moi acheter sur un j'aimerais bien acheter mais sur internet sans essayer, j'ai du mal,
c'est pas évident,
ouais. Et puis c'est vrai que tu oui en plus mes vêtements, il y a vraiment un côté tactile, sensoriel. Il y a aussi, oui, beaucoup de gens me disent, mais attends, mais tes vêtements, quand on les voit en vrai, ils sont bien mieux qu'en photo. Et c'est dommage que... Alors, il faudrait peut-être que je prenne des meilleures photos, mais...
Par exemple, tu as utilisé beaucoup de soie qui a été tissée à la main, ce genre de choses. Du coton upcyclé, c'est vrai qu'on a besoin et on a envie de le toucher. Ça, on peut le comprendre tout à fait, effectivement.
Oui, voilà, la soie, par exemple, c'est pas du tout la même chose quand on la voit en photo et quand on la touche. Ouais.
C'est pas des pop-up, des pop-up stores, voilà. Et c'est l'occasion de faire venir tes clients et que pour eux découvrir tes modèles, en fait.
Ah bah, l'occasion d'ailleurs d'en venir à effectivement peut-être la dernière information, la nouvelle de Moudana. C'est que oui, alors par contre, ce que j'ai prévu de faire, c'est je reviens en France. Quand même, c'était vraiment bien au départ d'être sur place. Ouais. J'aurais jamais, je pense, réussi à faire ce que j'ai fait si j'avais été à distance. C'est des petits ateliers, j'y vais super souvent, enfin, même là en ce moment, j'y vais parce qu'on est en pleine production, donc j'y vais pratiquement tous les jours. Et c'est vrai que d'être sur place, en plus, ça a permis de créer une relation de confiance. Voilà, je sais vraiment comment ils travaillent, ils me connaissent, j'y connais. C'est presque des amis maintenant. Ça a vraiment été important au départ d'être sur place. Maintenant, je pense que je peux me permettre de rentrer en France et que ça n'impacte pas la qualité de la production ici. Mais c'est parce que ça fait 2 ans que je suis là.
Oui, bien sûr qu'il y a une relation qui a été établie sur le long terme. Et pour les teintures, parce que tu as des très jolies couleurs dans tes vêtements, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est le choix des couleurs et justement des bleus, des couleurs qu'on ne voit pas souvent, finalement, qui sont assez jolies. Comment tu as fait pour les teintures? Parce que j'ai lu plusieurs choses à ce sujet où on expliquait que ça pouvait être très, très toxique.
Bon, donc les tissus upcyclés, ils sont déjà teints.
Oui, forcément.
Donc ça, je les achète, ils ont leur couleur et puis voilà. Et après, donc pour les tissus artisanaux, la collection Cambodge, c'est soit certains, c'est il y a un peu de teinture naturelle, soit sinon c'est des teintures non toxiques. La
D'accord.
partenaire pour la soie, la partenaire avec laquelle je travaille, elle achète des teintures certifiées. Donc ça, c'était un minimum pour moi. En fait, j'aurais préféré des teintures naturelles, mais au Cambodge, la teinture naturelle, c'est un savoir-faire qui a beaucoup disparu, qui existe très très peu. Donc c'était pas évident de trouver des partenaires. Par contre, pour la collection Laos, j'ai voulu aller plus loin, et là, c'est que des teintures naturelles pour la collection Laos. Mais effectivement, au Laos, ils ont encore un savoir-faire en teinture naturelle qui est génial, quoi. Le beige, c'est des feuilles de manguier. Et c'est vrai que non, mais ils ont un super savoir-faire au Laos en termes de teinture naturelle. Et justement, quand j'étais là-bas, je discutais avec mes partenaires. Et en fait, ce qui est triste, c'est que même dans les villages reculés, les gens ont tendance à remplacer les teintures naturelles par des teintures chimiques. Et ce qui fait que, y a beaucoup de tissus qui sont tissés traditionnellement, mais dont la teinture est chimique. C'est vraiment dommage. Et quand on n'est pas connaisseur, on a du mal à s'en rendre compte, en fait. On ne le sait pas. Donc, on voit un tissage traditionnel qui va, par exemple, ressembler à moi, ce que j'ai dans mes vêtements. Mais en fait, c'est de la teinture chimique et c'est très difficile de s'en rendre compte. Il y a vraiment, tu vois, dans les villages reculés, de plus en plus, c'est-à-dire la fast fashion, c'est pas que en Europe. C'est aussi au fin fond de la campagne, des tenues traditionnelles et des savoir-faire traditionnels qui sont remplacés par du synthétique, par des couleurs chimiques, par des t-shirts seconde main venus des États-Unis. Enfin, voilà, donc c'est la fast fashion. Il y a aussi des impacts négatifs dans des zones très reculées et très traditionnelles.
Ouais, et puis c'est quelque chose qu'on réalise pas forcément en fait, tu vois, parce que finalement on en a beaucoup parlé avec le Rana Plaza, avec tout ce qui s'est passé au Bangladesh et dans d'autres pays, mais des pays qui sont des grands pôles de confection et dans des zones très industrialisées finalement. Donc là, on voit tout de suite l'impact. On se dit ah bah oui, il y a eu un accident, il y a eu un incendie, il y a eu une décharge de produits toxiques. On comprend tout de suite l'impact de la fast fashion. Tandis qu'on a moins de facilité, je trouve, à en mesurer l'impact sur des petites régions isolées comme au Cambodge ou la Thaïlande ou je ne sais quel autre pays. Alors, dernier petit point que je voulais aborder avec toi, c'est la question des tarifs, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent quand tu dis Oh, mais moi, je voudrais m'habiller éthique, mais ça coûte trop cher, etc. Donc, je voulais vraiment faire passer le message aux auditeurs que chez Moudana, ce n'est pas plus cher, en fait, que des enseignes comme, je sais pas là, je pense à Koukaï ou ce genre d'enseigne.
Ouais, si tu vois mes tarifs, effectivement, ça va pas être beaucoup plus cher que aller chez Zara acheter du Zara non soldé. Et c'est pas du tout la
Exactement.
même qualité.
Exactement. Et justement, je trouve que tu expliques ça assez bien et de manière assez transparente, tu as expliqué pourquoi tu ne faisais pas de solde, pourquoi tu avais choisi de ne pas en faire. Et parce que finalement, tu essayes de pratiquer un prix juste toute l'année. Et voilà, et je voulais te féliciter pour ça parce que
Ah, merci.
c'est pas
Merci.
une décision facile. Et je trouve que vraiment, une robe à 80 euros, quand elle est composée de coton upcyclé, de soie tissée à la main, c'est un tarif qui est tout à fait raisonnable et qui est même en bas de l'échelle des prix qu'on peut voir aujourd'hui.
Ouais, pour être honnête, effectivement, oui, je fais pas beaucoup de marge sur mes produits. Et au point même où je me demande si ça va être tenable. <C'est>, bon, je continue comme ça, mais effectivement, il y a un moment aussi. Par exemple, je me rémunère toujours pas hein, avec Moderna. Et bon, quand on crée son entreprise, c'est normal de pas se rémunérer tout de suite. Mais c'est vrai que c'est parfois frustrant quand on entend les gens dire oui, c'est cher. Quand ouais. Tu sais que toi, bah, tu fais des efforts, tu rognes tes marges pour pas avoir des produits trop chers et que toi, quand tu es une petite marque, bah, c'est pas évident. D'un côté, les consommateurs, ils vont dire qu'ils trouvent ça cher, mais en même temps, bon, bah, tu sais. Puis aussi, les gens de mon secteur me disent, bah non, en fait, comparé à d'autres créateurs, mes vêtements sont pas très chers.
C'est un équilibre pas évident à trouver. J'imagine que ça génère aussi un peu des frustrations si on dit « Oh, mais c'est cher, la mode éthique, c'est cher », quand toi, tu sais que tu fais tout ce que tu peux pour justement rendre la mode éthique accessible.
C'est dans nos têtes, dans notre imaginaire, c'est comme si le t-shirt, il se faisait tout seul sous la machine à coudre et hop, parce qu'il ne valent rien, justement. Donc, comme c'est vendu rien du tout, bah, on pense qu'il y a très peu de travail derrière. Alors que si, même un pauvre t-shirt, il y a quand même y a une couturière qui a assemblé les deux bouts de tissu et les a passés sous les aiguilles d'une machine à coudre. Il y aura toujours ça. Ça n'existe pas encore, les machines automatiques sont les humains au niveau de la couture. Donc, et une fois qu'on réalise ça, après, bah, effectivement, on se met à peut-être à réfléchir un peu plus. Et puis, pareil, réaliser tout le tissu, toute la quantité d'étapes incroyables qu'il y a derrière un tissu. Mais encore une fois, je pense qu'on est tellement habitué à avoir des tissus vendus pour rien du tout qu'on ne se rend plus compte que derrière, pour faire un tissu, ça demande beaucoup de travail. Ouais. On a complètement perdu la valeur du travail par rapport à la mode. On l'a par rapport à d'autres objets, d'autres situations, mais par rapport à la mode, on a complètement perdu cette conscience-là, quoi.
Ouais, je pense qu'il va falloir se rééduquer, en fait, petit à petit, tu vois. Ouais. C'est des valeurs que les anciens avaient, que nos grands-parents ou arrière-grands-parents avaient très bien en tête et qui ont été perdues forcément avec le développement de la fast fashion. Et je pense que maintenant, on est dans une période où on se rééduque et on réapprend, en fait.
Et en même temps, moi je comprends aussi, j'ai été comme ça. Hein. J'ai été la première à acheter, à profiter des soldes et à surconsommer. Et encore, il n'y a pas si récemment, pas si longtemps que ça, je suis rentrée en France. J'avais ici, au Cambodge, on ne trouve pas de la lingerie potable. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je suis partie chez une grande ancienne m'acheter de la lingerie pas très chère en soldes. Et puis après, j'ai regretté, j'ai fait « Mais Aude, qu'est-ce que t'as fait ?» et puis effectivement, 6 mois après, ça ne va plus du tout. Six mois après, ça fait des faits, il y a des trucs qui se décousent. Et, ah là 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 là, j'aurais mieux fait de dépenser 3 fois plus et d'acheter quelque chose qui va me durer 5 ans au lieu d'acheter de la lingerie qui va me durer 1 an et qui sera jetée après, quoi. Voilà, mais donc, comme tu disais, on fait encore des erreurs maintenant, quoi. Et puis, voilà, c'est un processus petit à petit de commencer à réfléchir. Et moi, je pense que c'est indissociable aussi du fait d'avoir aussi une démarche de sobriété dans son dressing, c'est-à-dire un peu minimaliste. Ouais. Si tu enclenches la démarche d'acheter éthique, ça veut forcément, à moins que tu sois très riche, t'es beaucoup d'argent, mais sinon ça veut dire que forcément tu vas acheter moins et tu vas essayer d'acheter des choses qui vont plus te correspondre à ta morphologie, à tes habitudes de vie.
Bon, et bah écoute, je pense qu'on a abordé tous les sujets clés en fait du développement de Moudana. Je voulais vraiment qu'on parle de l'artisanat, des tissus. C'est vraiment quelque chose que tu mets en avant et je trouvais ça intéressant, d'autant plus que c'est la première fois, en fait, sur les 2 saisons de Basilic que je reçois quelqu'un qui travaille avec des tissus artisanaux issus d'Asie ou d'autres pays. Donc, c'était très intéressant.
À résultat, peut-être que ce que je pourrais te rajouter, c'est... Bon, moi, je suis complètement passionnée des tissus artisanaux et c'est sûr que je vais continuer. J'adore travailler avec ces tissus. Ils me font rêver. Enfin, je trouve qu'ils ont tellement de sens derrière. Mais il y a quelque chose auquel je n'avais pas pensé avant, c'est que ça implique beaucoup de contraintes techniques. C'est compliqué en fait. Y a des... voilà, par exemple, les teintures naturelles, tu vois, il y a 2 jours, on avait un souci, c'est que il y a un tissu, le tissu de la veste taille dame en bleu clair. En fait, l'indigo, tu dois faire plusieurs bains d'indigo pour que la couleur devienne plus foncée. Donc, le bleu foncé, ça veut dire qu'ils ont fait 4-5 bains d'indigo. Mais le bleu clair, ils n'en ont fait que 2. Et à 2 bains d'indigo, eh ben, la couleur n'est pas toujours uniforme. C'est-à-dire, parfois, c'est un peu plus bleu, parfois, c'est un peu moins bleu et tout. Et donc, quand tu vas assembler les pièces, tu te rends compte qu'au niveau de la couture, là, tu vois qu'il y a un côté qui est un peu moins bleu et un côté un peu plus bleu. Et donc, c'est là où... mais parfois, j'ai des sueurs froides parce que la confrontation des attentes du marché européen avec les tissus traditionnels, c'est pas facile à gérer.
Ouais.
Vraiment pas, parce que sur le marché européen, bah, tu t'attends à ce que tout soit uniforme et de la même couleur. Et donc, c'est ça aussi, par exemple, qui va faire que les gens, ils vont pas se faire chier, ils vont aller voir des teintures chimiques, parce qu'une teinture chimique, tu seras sûr que la couleur, elle sera uniforme. Et t'auras pas d'emmerde, et t'auras pas de retour, et t'auras pas de clients mécontents. Et moi, voilà, résultat, avec les teintures naturelles, parfois, je me retrouve confrontée à dire « Allez, tant pis, je prends le risque ». Et là, sur la veste, j'ai dit tant pis, je prends le risque et j'expliquerai au client, je leur dirai désolé, c'est pas non plus ultra flagrant, c'est pas énorme, mais voilà, il faudra quand même que je prévoie d'expliquer, de dire votre veste, il y a des endroits, c'est un peu plus bleu et un peu plus bleu que d'autres endroits. Et ça implique derrière un fonctionnement différent. Et pareil, j'avais des partenaires aussi qui ne comprenaient pas. À un moment, j'ai commandé des écharpes en teinture indigo. Et puis, ils m'ont livré des écharpes. Ça allait du bleu clair-clair au bleu ultra foncé. Et là, je me dis, vous ne vous rendez pas compte. Moi, après, je vends ça sur un site internet. Il y a une photo d'une écharpe de telle couleur. Si après, j'envoie la photo, l'écharpe, elle est bleu foncé et j'envoie au client une écharpe bleu clair, quand même, ça ne va pas aller, là. Ça fait partie des difficultés de ma démarche. Mais en même temps, c'est ça aussi qui, je trouve, rend les choses passionnantes. C'est que c'est des tissus qui sont vivants. C'est pas des tissus qui sont complètement uniformisés dans une chaîne de fabrication mécanique, quoi.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci Jeanne. Merci à toi de mettre en valeur toutes ces belles initiatives.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Aude a récemment lancé une campagne de financement participatif pour la sortie de sa 3e collection de vêtements. Si vous souhaitez y participer afin de soutenir son travail, j'indiquerai le lien dans la barre de description de l'épisode. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et à me le faire savoir sur les réseaux sociaux @basilicpodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt !